Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Aujourd'hui, on va étudier l'IA sous trois aspects, les trois étapes de l'IA. D'abord, le produit, avec un nouveau produit d'IA enthousiasmant. Ensuite, le business, avec la conclusion possible de l'affaire Sam Altman versus OpenAI. Et enfin, la foi, avec ce que j'appelle le piège de l'effective altruism, un truc passionnant dont on va vous parler tout de suite. C'est le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 541. Nous sommes en novembre 2023. Il fait moins 15 ici en Finlande. Je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Et je suis doublement, triplement heureux d'avoir Guillaume avec moi, qui, avec son studio, un petit peu, je dirais, un poil moins beau que la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'habitue,
ah,
tu vois.
Mince. Déjà là. Ah, bah oui. C'est déjà la lassitude après.
T'es un petit peu brûlé, non? En fait, le mur est un peu brûlé derrière toi. Je crois que
okay,
c'est ça.
Ok, c'est mon réglage. Je vais ajuster les choses. On fait du podcast audio, donc on va pas se prendre la tête plus que ça sur la vidéo. Mais merci Patrick de m'accueillir. Ça va très très bien. Ravi de pouvoir parler tech à nouveau avec toi. Il nous reste quelques jours, quelques semaines en fait, hein, pour préparer les cadeaux de Noël. Donc on a encore du temps. Hein, ça va, tout va bien là-dessus. Et puis on a des sujets passionnants à aborder là dans l'émission. Donc c'est cool.
Tu sais, on se dit qu'on a encore du temps jusqu'à ce que tout à coup il soit trop tard. Donc je t'encouragerais à ne pas trop procrastiner.
Les commandes sont faites, tu l'imagines bien.
Tout en procrastinant moi-même. Merci, un grand, grand merci à Eric Hutchens et Tim Nicolas, les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints. Et également un grand, grand merci aux producteurs Julien D et WakaTP. Merci à vous quatre et merci à tous ceux et toutes celles qui font que cette émission peut exister en allant sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Si vous voulez participer, c'est là-bas que vous devez aller. Le lien est dans les notes de l'émission. Donc, trois étapes de l'IA. En fait, je relisais mes notes et j'avais... En fait, j'ai fait sauter un sujet sur Binance, dont on va parler quand même en deuxième partie d'émission, et le départ de Changpeng Zhao, qui est un événement très important pour la crypto. Mais j'ai rajouté un sujet hyper intéressant sur un nouvel outil, un nouveau produit d'IA qu'on va vous faire écouter en direct. Mais du coup, je me suis dit, alors, on a l'IA ici, l'IA là, ça fait un petit peu les cinq stages of grief. Et je me suis dit, c'est un peu les cinq étapes du deuil, mais dans l'IA, donc c'est les cinq étapes de l'IA, les trois étapes de l'IA, puisqu'on en a trois. Avant ça, je veux dire que j'ai fait un petit AMA qui a été publié ce week-end, qui a été assez bien reçu. Je parlais de sujets un peu difficiles, un peu polémiques. Dans l'ensemble, vous avez plutôt bien aimé. Mais je reviendrai peut-être sur un sujet dans l'after show ou peut-être même en cours d'émission. Un sujet et la raison pour laquelle je défends, entre guillemets, les méchants, entre guillemets. Et je n'avais pas bien réussi à exprimer pourquoi, le pourquoi du comment dans les AMA, je crois. J'avais les prémices, mais j'ai meilleure vision de ça, et j'en parlerai tout à l'heure à un moment, peut-être en after show pour les patriotes. Mais pour le moment, on se lance dans la première section, les infos à retenir cette semaine. Et la première info, c'est Suno.ai. C'est une énième, xème, 12 000e société qui fait de l'IA et qui fait de l'IA générative dans un domaine qui existait déjà, mais qui n'avait pas été aussi impressionnant que ça jusqu'à maintenant, je trouve. Je crois qu'ils sont relativement jeunes, relativement nouveaux. Et si je te dis les domaines inexplorés de l'IA générative encore ou pas satisfaisants de l'IA générative, c'est quoi, Guillaume, à ton avis ?
Alors, j'ai l'impression que ce qui reste balbutiant, mais ce qui avance beaucoup, c'est la vidéo quand même, hein, parce qu'on a l'impression que les intelligences artificielles génératives, elles ont un peu de mal à garder la cohérence d'une vidéo sur le long terme. À chaud, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de domaines qui sont bien explorés. L'audio, comme ça, spontanément, me semble plutôt bien calé et plutôt bien parti, mais j'ai l'impression qu'il va me contredire.
Justement, c'est de ce domaine qu'on parle, la prochaine frontière de l'IA. Et vous vous souviendrez, si vous avez écouté l'émission régulièrement ces dernières, un an et demi, deux ans, qu'on parle beaucoup d'IA. Mais là, ça fait quelques mois que j'ai plus vraiment été impressionné par un nouveau produit en IA. Disons qu'il y a des évolutions attendues, parfois, qui sont effectivement impressionnantes, mais il n'y a pas eu une nouvelle catégorie qui a été défrichée par un nouveau produit, même si on a évoqué des pistes qui semblaient prometteuses. Et en l'occurrence, effectivement, c'est l'audio et la musique. Et la musique, et même, j'irai plus loin, la chanson. Et on avait, je vous avais fait écouter, hein, ça devait être il y a 6 mois, des produits de recherche de Google où ils montraient des petites démos où ils disaient, en mettant tel prompt, on obtient tel résultat de tel type de musique, tel type de chanson. Bah là, il y a un produit qui s'appelle Suno, S-U-N-O, .ia évidemment pour le site web, qui vous propose, en créant un petit prompt, une petite suite d'une description textuelle, de vous créer une chanson entière, bon, un petit bout de chanson, ça dure généralement entre 30 et 50 secondes. Et voilà ce que ça donne quand on lui dit « Bataille de rap entre les podcasteurs tech, Patrick du Rendez-vous Tech et Guillaume de Tech Café ». Voilà ce qu'il crée en 2 minutes. Alors attendez, je vais le refaire parce qu'on n'a pas le, le son,
pas le
donc
retour.
Je le refais. Voilà ce qu'il crée en 2 minutes.
Tech, tu sais, t'as peut-être pas podcast, mais je suis lourd, j'arrive.
On revient au début.
Yo, qui c'est qui débarque avec du flow? C'est Patrick, le king du RDV. Tech, tu sais, t'as peut-être pas podcast, mais je suis lourd, j'arrive pour tout geek. Tu me t'envoyais dans le noir, Tech Café, t'es qu'un petit joueur. On écoute bien ce que je vais dire. T'as pas le niveau pour me faire souffrir. C'est la bataille de rap, je vais t'anéantir. RDV Tech, c'est moi qui vais finir par rire.
Et voilà pour un premier morceau. Alors on a que la partie où c'est Patrick qui va anéantir Guillaume. J'ai fait écouter ça à ma femme. Elle m'a dit ah ouais, c'est marrant. Mais c'est pas juste marrant, c'est invraisemblable. Tu lui dis là. Le prompt, je lui ai dit « Bataille de rap entre les podcasteurs tech, Patrick du Rendez-vous Tech et Guillaume de Tech Café ». Et il a écrit les paroles, créé la musique, adapté le phrasé au style que je lui ai demandé et collé les paroles chantées sur la musique. Il a même fait un petit album art qui est, ce qu'il est. C'est pas la meilleure génération d'images qui soit, mais elle est là. Moi, je trouve ça invraisemblable. Invraisemblable. Et on nous dit dans la chatroom, dans 3 jours, on trouve Patrick et Guillaume qui se lancent des parfums, dessus à Orly. Moi, je pense que c'est la prochaine étape.
On a trouvé un moyen d'ajouter de l'audience à tous les podcasts, Patrick, c'est génial. C'est du ça. Drama qu'on voulait. Très bien.
Je vais vous en jouer un autre. Alors, il n'y a pas que moi, en fait, je l'ai découvert par Eratz, qui est dans la communauté Discord, qui a envoyé un petit morceau où il parlait de Patrick qui aime les sous-sous pour le Patriote. Peut-être que je vous la jouerai pour la partie Patriote. Mais je vous donne un autre exemple avec le prompt. Une chanson sur l'état du monde de la tech qui explique de manière joyeuse la domination des GAFAM.
Amazon, les GAFAM sont partout, partout. Ils dominent la tech, ils prennent le contrôle. Dans nos vies connectées, ils nous tiennent en rôle. Mais on aime ça, ils nous rendent accros. GAFAM, GAFAM, tout le monde en parle. Dans ce monde numérique.
Voilà pour la première version, je fais 2 versions.
Tous les jours, on voit leur nom partout.
Google, je vais vous épargner la suite.
Et Amazon, les gars, femmes sont partout.
Alors, clairement, on va pas encore, j'allais dire, on va pas monter dans le top des billboards, encore que, hein, on sait jamais. Guillaume, est-ce que je m'emballe ou est-ce que vraiment c'est invraisemblable maintenant ce qu'on arrive à faire, rends-toi compte aujourd'hui, hein, on peut faire des trucs fous.
C'est moi ou elle dit les GAFAM?
Elle dit GAFAM, mais effectivement, il y a des tout petits défauts de prononciation, elle dit un peu GAFAM, elle le bouffe un peu son G.
Bon, après, tu sais ce qui est génial. Alors oui, c'est bluffant, en fait, puis c'est marrant parce que j'imagine que t'as fait quelques prompts et puis t'es arrivé à des résultats qui sont tout de suite marquants. En fait, ce qui est assez rigolo, je trouve, dans l'exercice auquel tu t'es prêté, c'est que tu mets en lumière un outil qui, finalement, sur le fond, apporte pas une nouvelle technologie complètement remarquable. J'ai l'impression que de générer du texte maintenant depuis quelques mois, ça veut dire depuis très, 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 très longtemps à l'échelle des intelligences artificielles génératives, ça avance bien, ça marche bien. Le fait de générer une voix, c'est plutôt cool. Et je pense que le fait de le mettre en musique sur des principes musicaux tels que tu nous les as mis en illustration là, finalement, tout mixer, ça marche bien. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des technologies qui avancent bien, mais il y a des services à venir qui vont arriver à mixer, à marier bien ces différentes prestations pour arriver à faire des résultats convaincants. Je le vois aussi d'ailleurs au passage, je ne sais pas si tu as traîné, et peut-être que tu n'as pas les mêmes recommandations que moi sur Instagram dans l'onglet recommandations. En ce moment, à chaque jour, j'ai un nouveau clip incarné par Emmanuel Macron ou d'autres politiques. Et je trouve que c'est là où on touche à une nouvelle étape, c'est qu'on voit une démocratisation des usages et puis comme ça, marier différentes manières d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est très, très cool. Je dois quand même dire, Patrick, je suis très rassuré parce que je n'avais pas vu pour les auditeurs et je n'avais pas entendu le clip audio que tu as diffusé. Et je m'attendais, quand il y avait bataille de rap entre les podcasters tech, Patrick et Guillaume, qu'on nous entende avec nos voix. C'est-à-dire que je craignais que l'outil soit allé chercher nos voix sur nos podcasts
et les synthétiser.
Ça va venir dans un mois ou deux, tu vois.
Ça viendra. Mais effectivement, je voudrais que la chatroom, s'il vous plaît, que ce soit sur YouTube ou Twitch, me dise, tu vois, les gens trouvent ça magnifique à la fois sur YouTube et Twitch. Proposez-moi un prompt, il faut que ça fasse genre 50 caractères, c'est assez court. Proposez-moi un prompt, on va en générer une en direct dans un instant. Proposez-moi quelques prompts et puis on va voir ce que ça donne en direct ensemble. Mais c'est vrai que on a l'impression que c'est le fait d'allier des technologies déjà existantes, et d'une certaine manière, c'est le cas, mais il faut aussi imaginer qu'il faut que la voix générée ne soit pas juste une voix qui parle de manière monotone comme une lecture de texte, quoi. Il faut que ça soit une chanson qui soit adaptée dans les tons et dans les notes à la mélodie qui est en dessous. Et donc, et il faut aussi que le texte qui est généré soit vraiment du texte généré pour de la chanson, de la musique. Donc, oui, c'est déjà possible à faire plus ou moins, mais je pense que c'est des modèles quand même qui sont relativement spécialisés. Et j'admets volontiers que là, on est à un niveau qui... Enfin, c'est comme quand on voyait les premières images il y a un an et demi, deux ans aujourd'hui, générées par Midjourney. On se disait, ah ouais, c'est quand même pas mal, mais c'est un truc qui est d'un niveau de, d'un étudiant en art en première année. Et du coup, ça sert à rien, machin. Là, je pense que dans cette forme, effectivement, ça va pas servir à grand-chose. On est dans le bas du panier de la musique commerciale de mauvaise qualité musicale et mauvaise qualité... qualité technique, c'est-à-dire qu'on a des petits parasites, on a... Évidemment, là, on est d'accord. Et du coup, je crois que ça, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. J'irais même jusqu'à dire que je ne sais pas si, même une fois de grande qualité, ça sert à grand-chose. Mais peut-être... Parce que de la musique, encore, tu peux dire, j'utilise pour ci ou pour ça, mais une chanson... Tu vas créer une chanson, genre, pour ta boîte, pour accompagner ton logo. Peut-être que on trouvera des usages spécifiques, mais il n'empêche que techniquement, je trouve ça, moi, assez impressionnant. On a une suggestion qui est une chanson sur les joueurs bronze de Street Fighter VI. Alors, on va dire une chanson pop sur les joueurs de... compétitif de Street Fighter sur les mauvais joueurs sans on va tenter un truc sur les joueurs sans skill. Skill de Street Fighter
et un peu de drama,
leurs échecs retentissants. Hop, on crée. Alors, il compose la chanson, il va en composer deux. D'abord, il crée une chanson de flamenco sur les enfants de Patrick toujours malade. On pourra tenter ça aussi. Alors, la manière dont ça marche, c'est qu'il a d'abord créé les paroles. On va voir ce que ça donne. Et il maintenant a créé les paroles et il est en train maintenant de composer deux chansons à partir de là, ainsi que l'album. On va voir ce que ça...
La vignette, c'est ça. En plus, il va te suggérer une vignette. Ouais, j'adore.
Il crée une vignette. Et donc, le service est gratuit. On va sur sumo.ai. Ça marche en partie sur Discord, en partie sur leur propre site. Et on commence avec 150 crédits. Chaque génération coûte 10 crédits. Donc, on a en gros une quinzaine de chansons gratuites qu'on peut créer. Et à partir de là, on peut s'abonner pour en créer plus. Encore une fois, c'est marrant à tester. Est-ce que tu imagines des usages vraiment, toi, d'un truc comme ça, ou ça reste du domaine du gadget ?
Bien sûr, un usage phare, c'est la pause café dans les entreprises, parce qu'évidemment, les personnes qui auront écouté cet épisode vont avoir qu'une seule envie, c'est de ponctuer leur pause café avec les collègues avec ça, donc ça va les aider. Non, je pense que comme tous les outils génératifs, l'intelligence artificielle, c'est quand même des opportunités de lutter contre la page blanche. De donner un peu des idées, des premières pistes d'exploration. J'imagine bien que des artistes et des personnes qui sont habituées à créer de la vraie musique, ils vont peut-être voir ça d'un œil un peu distant, mais j'imagine que ça doit aider sur les premières pages blanches quoi, à remplir.
Peut-être,
j'imagine.
Oui, effectivement. Alors, on a le résultat de la première requête et on y va, on écoute tous les deux pour la première fois. On rappelle que c'est une chanson pop sur les joueurs sans skill de Street Fighter et leurs échecs retentissants. Là, on se met dans l'ambiance déjà. Je remets parce que évidemment, je l'avais pas mis en. Vous ne pouviez pas l'entendre. Donc on recommence. On se met dans l'ambiance. Ok. Est-ce que ça va commencer ? J'aime bien l'intro. Moi. Elle est longue l'intro.
Il y a des paroles.
20 secondes déjà. Ouais, alors il y a des paroles qui sont écrites, mais je sais pas quand elles vont arriver. Là, on n'en peut plus, c'est la pression.
Ah oui. Vache.
Eh, franchement, au niveau musical, je trouve ça pas si mal, quoi.
L'intro est un peu longue pour Spotify, sans doute.
Un peu longue, ouais, c'est ça. TikTok, c'est 2 minutes pour la chanson entière. J'ai l'impression qu'il va pas y avoir de chanson.
Aïe, aïe, aïe. Quelle déception, j'attendais ça, moi.
Ouais, ouais.
Et tu as pas les paroles qui s'affichent sur l'outil, justement ? Qui sont censées
alors,
être...
Bon, écoute, il n'y a pas de paroles, on va tenter l'autre version. Et première fois que ça ne marche pas. Ah, c'est bien les paroles, là. Okay. C'est la même requête, hein. Eh non, mais il n'y a pas les paroles.
Jeu, ah, les manettes dans les mains, le courage dans ton regard. Mais dans le jeu, tu t'entraînes en vain. T'es vraiment pas du tout au niveau, c'est triste à voir.
Ça marche, hein. Ça marche pas. Hein.
Street Fighter, t'as pas la classe, on peut pas nier. Street Fighter, Street Fighter, tes défaites, ça me fait rire à en pleurer.
C'est la meilleure celle-ci.
Elle est pas mal. Il y a une partie qu'il a pas lue. En fait, il y a une partie, c'est intéressant, qui est en musique, qui devrait être les paroles.
Street Fighter.
Il s'est arrêté. Tes échecs retentissants, c'est une véritable tragédie. Il y a une partie qu'il n'a pas lue. Les skills zéro, tu te fais battre d'un coup, tu rages comme un fou, viens, je t'enveloppe dans mes bras. Il n'a pas lu cette partie. Donc, il y a eu un petit souci, clairement. On a eu une autre quête de Fanny, une chanson de flamenco sur les enfants de Patrick toujours malades.
«
Alors, est-ce qu'il va encore pas nous faire de parole ?
Bonne journée. Hein.
Maladie qui nous vole la vie, je résiste. La douleur est profonde, mon cœur se brise.
On dirait une chanson d'un Disney en fait, tu sais, dans
le bien quoi. Leur souffrance me blesse.
Allez, la dernière. Toujours en flamenco. C'est marrant, elle n'a pas chanté toutes les paroles. La douleur est profonde, effectivement. Elle n'a pas chanté toutes les paroles.
Dans
donc.
Le silence de la nuit noire.
On va voir s'il a la deuxième partie.
Oh Patrick, mon ami, garde la foi. La guérison viendra, ensemble on y croit. Les enfants malades, ils sont notre espoir.
Bon, ben voilà, écoutez, ça m'affole un petit peu, la chanson des enfants malades. Je crois que Guillaume a viré sa vidéo.
Alors, pas du tout, mais c'est vrai que je te vois en double sur
alors,
le
oui,
retour.
Alors oui, il faudrait que tu réactives la vidéo parce que là...
Ah, j'ai fait une bêtise.
Bon, bah écoutez, voilà ce que ça donne. Maintenant, vous connaissez cet outil au moins. On a passé un petit peu trop de temps peut-être à jouer avec ça. Si vous voulez jouer par
rigolé.
Vous-même, c'est suno.ai. Et comme tous ces trucs, ça génère un petit peu du moyen moins. J'ai bien aimé la chanson Street Fighter. dans les mains, le courage dans le regard. Mais dans le jeu, tu t'entraînes en vain. T'es vraiment pas du tout au niveau. C'est triste à voir. Faut avouer que c'est bien écrit. Mais voilà. Et puis, ça va continuer à évoluer. Comme tu le disais, il y a des outils vidéo qui commencent à arriver de manière un petit peu plus convaincante. On a Stable Diffusion Video. C'est Stable Video Diffusion. Ça fait un peu des gifs. Vous savez, des gifs animés qui changent un tout petit peu de perspective, ces trucs un peu flottants, mais la qualité commence à être relativement bonne. Et donc, bah, tous les domaines, ça continue à évoluer. Voilà pour notre partie produit sur l'IA. J'espère que vous avez été impressionnés et apprécié ce truc, ce petit voyage dans suno.ia. On continuera à vous parler de ce genre de choses. Deuxième sujet, c'est la suite de OpenAI contre Sam Altman. Alors, on vous en parlait la semaine dernière et vous vous souvenez que c'était une sorte de saga absolument incroyable et qu'on avait vécu ensemble ce week-end de folie avec Sam Altman renvoyé sans qu'on comprenne pourquoi, qui est accusé par le board de choses un petit peu obscures qu'on ne comprend pas bien, puis certains membres qui avaient fait partie de cette sorte de coup d'État ont déclaré qu'en fait ils ne voulaient pas que Sam Altman s'en aille. La société, les membres de la société, les employés qui signent une lettre ouverte pour dire qu'ils vont partir si Sam Altman se barre. Ils étaient 500 au moment où on a enregistré l'émission avec Jeff et ils étaient 700 le lendemain, sur 770 personnes, dont 90% de la société serait partie. Satya Nadella de Microsoft arrive en maître stratégiste et accueille Sam Altman et Greg Brockman, les deux plus importants membres de la société, chez Microsoft. Et il ouvre la porte à tous les employés qui voudraient également les rejoindre. Donc, il a le potentiel de recréer OpenAI en interne chez Microsoft. Et là, je me dis... échec et mat, stratégie incroyable de Nadella. Qu'est-ce qui peut se passer de plus ? Maintenant, c'est fini. Il doit avoir des contrats en béton pour retenir Altman et Grockman. Et je dis donc échec et mat. Jeff, qui connaît mieux ce genre de situation et cet environnement, me dit échec, mais pas encore mat. parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer encore, ça pourrait évoluer, et il avait raison, puisque quelques jours plus tard, la dernière étape, vraiment le cliffhanger, ou en tout cas la fin de cette mini-série, c'est que Sam Altman retourne en réalité chez OpenAI, certainement aidé par Satya Nadella, qui avait un petit peu, alors peut-être pas toutes les cartes en main, mais une grande partie des cartes en main, et qui a eu une pression sur OpenAI grâce à le fait qu'il ait engagé Sam Altman et Greg Brockman et tous les autres, et qui a souhaité, semble-t-il, qu'OpenAI continue à exister tels qu'ils ont existé jusqu'à maintenant, d'une part pour protéger leur investissement de 10 ou 13 milliards de dollars dans OpenAI, d'autre part parce que, sans doute, au niveau de la régulation, c'est beaucoup plus simple d'avoir une société indépendante avec laquelle ils travaillent de manière extrêmement proche, plutôt que d'avoir en interne, effectivement, ce qui est la société la plus importante de l'IA, parce que les sociétés anti-compétitives, anti-compétition, position dominante, auraient peut-être été regardées d'un petit peu plus près. Et puis, il a énormément rapproché sa relation, renforcé sa relation avec Sam Altman et OpenAI. OpenAI change de board. Alors, on n'a pas encore tous les membres du board qui sont nommés, mais il y a une bonne partie qui change. Pas tous. Certains restent, certains partent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tentative de OpenAI de freiner le développement de l'IA a non seulement échoué, mais aura sans doute des conséquences inverses à ce qu'ils imaginaient, à ce qu'ils espéraient, c'est que maintenant, avec cet échec, on a l'impression que Sam Altman, qui veut faire avancer le truc, et les investissements dans des sociétés qui livrent des résultats, seront la voie à suivre. Et c'est un exemple de cette... Alors, prudence justifiée ou pas, on le verra peut-être tout à l'heure, qui n'a pas eu raison de la puissance de l'image et de la place de Sam Altman. Fin de l'histoire, a priori, à peu près. Tout revient presque comme c'était avant. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Ouais, t'as bien résumé la saison 1. Il y aura forcément d'autres saisons parce que c'est écrit. Je pense que t'avais quand même raison quand tu échangeais avec Jeff pour raconter ce qui s'est passé en disant que ce qui était à mettre en lumière, c'était aussi le génie de Satya Nadella et le rôle qu'il a à la tête de Microsoft et la manière dont il mène sa barque. Je sais que tu vas probablement revenir dessus, mais je pense que c'est un très fort enseignement. Et depuis le début de l'ère de l'intelligence artificielle générative, avec ChatGPT porté par OpenAI, il y a quand même un truc qu'on regardait un peu de manière curieuse. C'était cette dualité d'OpenAI entre cette espèce d'entreprise créée pour défendre l'innovation en protégeant l'humanité, voilà, avec des propos qui sont parfois même effrayants. Et on pouvait même considérer que le fait de concevoir les choses comme ça était quelque part une manière de créer du buzz derrière les services d'OpenAI. L'autre pilier étant la partie évidemment commerciale. Et puis, cette espèce de partenariat stratégique très solide avec Microsoft, mais qui avait quand même les limites dans la solidité de toute cette complexité du montage de la structure. Et j'ai l'impression, moi, que ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'il y a beaucoup moins de soucis à se faire sur la fragilité de cette structure. Satya Nadella, en proposant un poste dans le pire des cas, tel qu'on le voit maintenant à Sam Altman, il était vraiment dans une stratégie du type « à pile je gagne et à face tu perds ». Et je crois que finalement, il a gagné quoi. Il a gagné.
C'est ce qui s'est produit. Il a maintenant. Alors, il n'a pas de place au board. On a pensé pendant un moment que peut-être que Microsoft serait au board. Finalement, ça n'est pas le cas. Donc, il y a une certaine indépendance du board. À vrai dire, selon certaines analyses que je mettrai dans la newsletter, selon certaines analyses, on a même un risque ou une chance que le board qui va faire une enquête indépendante sur le déroulement de ces mésaventures puisse mettre en danger Sam Altman potentiellement. C'est l'avis de Casey Newton chez Platformer. Bon, je pense qu'il n'est pas très en danger Sam Altman, mais il y a effectivement une étude indépendante et un board, on verra qui sera nommé exactement, mais un board qui a l'air quand même d'avoir les reins solides. C'est pas un board qui sera aux ordres de Altman et Grockman. Eux-mêmes ne sont plus au board d'ailleurs, donc il y a quand même une certaine solidité dans la hiérarchie d'OpenAI toujours. Et puis l'autre élément qu'il faut évoquer bien sûr dans cette histoire, c'est théorie ou l'idée selon laquelle la raison pour laquelle le board s'est affolé, c'est qu'il y a eu un développement nouveau dans les projets d'OpenAI, un modèle qui s'appelle Q-Star, Q étoile, qui a été, on va dire, révélé, ou en tout cas dont on a discuté en interne chez OpenAI. Et ce Q-Star, selon les théories un petit peu fumeuses, serait une sorte de première étape vers l'AGI. En réalité, ce qu'il en ressort quand on écoute ceux qui savent de quoi ils parlent, c'est que c'est effectivement une étape importante dans le raisonnement mathématique pour les modèles de langage. Et qu'il y a une étape qui est franchie à ce niveau, ça semble assez clair. Par contre, le board, lui, n'avait même pas eu vent de... ou en tout cas, n'a pas eu cette fameuse lettre qui a été circulée à ce moment-là. N'a pas eu cette lettre, donc ce n'est pas la cause de... c'est pas à ce moment que les choses ont été problématiques. Les problèmes, qu'on en a parlé la semaine dernière, entre le board et Sam Altman, pouvaient depuis longtemps. Mais il n'empêche, ce modèle, semble-t-il, serait effectivement hyper intéressant pour des raisonnements mathématiques qui sont un problème difficile à résoudre pour les IA génératives jusque-là. Bah là, on serait en train de franchir une étape. C'est l'un des projets de recherche qui semble être abouti, selon ce qu'on entend, mais... Bon, là, on n'en sait pas énormément plus que ça à ce niveau.
Oui, et puis ça n'a pas l'air d'être une exclusivité OpenAI. Il est fort vraisemblable que toutes les entreprises qui investissent de la recherche dans l'intelligence artificielle de ce type-là soient en train de suivre un peu les mêmes directions. L'idée, hein, c'est, on peut peut-être le rappeler, c'est la manière dont fonctionnent ces algorithmes qui génèrent du contenu, on va dire token par token, donc c'est des mots, des caractères, en tout cas ils résonnent de manière un petit peu séquentielle, et l'idée c'est d'arriver, et je pense qu'effectivement OpenAI ils ne sont pas les seuls à aller dans ce sens-là, mais à prendre quelque part un peu de recul et avoir une forme de vue d'ensemble quand on génère du contenu et quand on réfléchit à des problématiques. Évidemment, c'est central quand on raisonne sur le plan mathématique, mais évidemment, ça a ses vertus sur plein d'autres aspects. J'aime bien essayer d'avoir une analogie dans la façon dont sont faites les images. Tu sais, il y a les images qui sont faites de deux manières, soit les images par carte de points, dites bitmap, ou les images vectorielles. Donc, c'est en gros des vecteurs mathématiques qui permettent d'avoir une définition très fine dans tous les cas. J'ai le sentiment, moi j'aime bien faire cette analogie, que en gros, cette nouvelle version d'intelligence artificielle qui serait incarnée chez OpenAI par Q-Star, ce serait un peu une façon de raisonner sur le plan vectoriel. Évidemment, mon analogie a vite des limites, hein, parce que c'est pas hyper précis, mais je pense que ça permet de toucher du doigt un petit peu l'orientation dans laquelle on est. Je note un truc, Patrick, pour revenir sur le board. Il y a un nom, moi, qu'on voit maintenu dans le board, et j'étais assez surpris. C'était Adam D'Angelo, qui a été pointé du doigt plutôt dans les rumeurs et dans les papiers qui tournaient autour de cette affaire comme étant un acteur de poids dans le fait d'écarter Sam Altman. Et finalement, j'y vois un message, moi, dans son maintien, le fait que ça le dédouanerait plutôt fortement de toute initiative trop fortement porté pour écarter Sam Altman, et le fait de dire, voilà, on passe pas, comme tu le disais tout à l'heure, à un board qui serait complètement à la botte de Sam Altman, mais qui garderait un poids. Je sais pas comment tu vois, toi, le maintien de Adam D'Angelo dans ce
non,
board.
Non, mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que, du coup, maintenant, c'est lui qui nomme le board. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on imaginait, nous, avec Jeff, la semaine dernière. S'il y retourne, il va poser ses conditions et il va être absolument intraitable. Le maintien de D'Angelo montre que ça n'est pas le cas. Et on a des gens sérieux, comme Brett Taylor, Larry Summers, qui semble-t-il, arrivent. Donc, c'est pas un board qui va faire la volonté de Sam Altman. C'est un board qui va avoir une position qui peut être ferme. Et surtout, on garde la structure. Alors là, il y avait peu de chances qu'elle soit modifiée à ce stade. Mais la structure avec l'organisation non gouvernementale, donc l'association à la tête de OpenAI, qui gère une société plus classique qui peut faire des profits, mais qui est subordonnée à l'association. Maintenant, évidemment, c'est pas que, vu le ratage total de ce renvoi, ils vont pas tout à coup se mettre à refaire la même chose demain. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Et dans ce cas-là, Satya accueille à bras ouverts encore Sam Altman, donc ils n'ont aucun intérêt à faire ça.
M'étonne.
Mais, oui, tu as raison, le board n'a pas du tout pris cette orientation à la botte qu'on aurait pu imaginer. Et c'est ce que note Casey Newton dans cet article que j'évoquais. Et il dit, oui, donc c'est pas totalement, totalement fini. Bon, je pense que la suite, tu vois, ça sera pas une nouvelle série, ça sera peut-être un... Tu sais, parfois, quand une série se termine et qu'ils veulent finir les dernières petites lignes qui se sont, qui n'ont pas été résolues, les dernières histoires, ils font un film. Genre un film d'une heure et demie après trois saisons ou quatre saisons pour conclure. Peut-être qu'il y aura ça.
Effectivement, on s'y attend.
Et du coup, troisième sujet de la semaine. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y ait dans cette motivation de OpenAI une idée de protéger l'humanité et de protéger de l'AGI, de l'intelligence générale artificielle, intelligence artificielle générale, qui est une sorte d'intelligence artificielle consciente. Et beaucoup de gens ont parlé dans ce contexte, d'un truc qu'on a déjà évoqué qui s'appelle l'altruisme effectif. Est-ce que tu sais ce qu'est l'altruisme effectif ?
Alors, je connais de nom parce qu'on a souvent parlé de cette orientation plutôt philosophique quand on commençait à décrire justement ces entreprises et certaines personnes de la tech. J'ai en plus été un bon élève parce que j'ai quand même consulté un petit peu les notes de l'épisode avant, mais je dois reconnaître, Patrick, que je suis pas bon du tout là-dedans. Et alors, j'ai un peu une crainte aussi, c'est que dès que tu commences à documenter sur le sujet, tu sens que tu tombes dans des vidéos limite philosophiques qui t'ont travaillé le cerveau, genre celle de Monsieur Phi, etc. Donc, non, éclaire-moi là-dessus, Patrick, s'il te plaît.
L'altruisme effectif, c'est une idée qui, à la base, est tout à fait louable. C'est l'idée de se dire, je veux être une personne altruiste qui va œuvrer pour le bien de l'humanité, mais comment est-ce que je le fais du mieux possible ? Et concrètement, le transfert de valeur se fait avec de l'argent. Et donc, quand je gagne de l'argent que je veux attribuer par le biais d'associations, par exemple, à différentes causes, il faut savoir bien faire son choix. Je résume un petit peu, mais en gros, c'est à peu près ça à la base. On va choisir les moyens les plus efficaces de soutenir des actions, ou en tout cas soutenir les actions les plus efficaces pour bénéficier à l'humanité et amener le meilleur possible pour la valeur qu'on a attribuée. Ça s'applique à tout le monde, ça ne s'applique pas qu'aux millionnaires et aux milliardaires, ça s'applique à vous, moi, tout le monde, quand on prend une décision, en particulier peut-être une décision financière de soutien de dons, comment est-ce qu'on va bénéficier le plus possible à l'humanité ? Une fois ceci dit, et je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je parle d'altruisme effectif, me répondent que les travers ne sont pas l'intégralité de la philosophie, je vous ai lu, je vous ai entendu et je le comprends. Il n'empêche, pris à son paroxysme, cet altruisme effectif peut avoir des effets pervers. Et c'est un petit peu, semble-t-il, ce qu'on a vu avec OpenAI et, si on remonte un petit peu plus loin, avec SBF et FTX, la plateforme de crypto qui a sombré il y a quelques mois. Et Sam Bankman-Fried, qui était à sa tête, qui était un altruiste effectif de premier plan. Le problème, c'est que la philosophie de base est intéressante, mais souvent, semble-t-il, les gens qui ont beaucoup d'argent poussent cette philosophie tellement à son paroxysme qu'on arrive à une sorte de foi aveugle, voire à des absurdités presque alors, philosophico-religieuses qui mêlent la peur irrationnelle, le culte sans questionnement et limite une sorte de foi un petit peu... Tu sais, les gens qui ont été élevés des chèvres dans le Morbihan il y a quelques décennies de ça, peut-être nos parents ou la génération d'avant, qui en sont revenus un petit peu vite parce qu'ils étaient aveuglés par une sorte d'idéalisme qui ne leur permettait pas de voir les choses telles qu'elles sont. Eh bien, en l'occurrence, il y a chez les gens qui sont très très riches cette idée qu'on veut être aussi effectif que possible et donc on va se renseigner nous-mêmes et même en poussant un petit peu plus loin, on va savoir nous-mêmes mieux que n'importe qui d'autre comment faire les choses. Et on va déterminer les dangers. Et on va donc attribuer nos efforts en fonction de ces dangers qu'on a déterminés. Alors, ce n'est pas tout à fait tout seul, mais ils se réunissent en groupe, ils discutent, ils disent « Ah oui, mais alors ça, c'est un problème, ça, ça pourrait être un problème, ça. » Et évidemment, comme il y a beaucoup de gens dans le secteur de la tech, ils sont obnubilés par la tech et ils y voient tous les problèmes et toutes les solutions. Je vais vous donner deux exemples qui s'appliquent dans ces groupes dans le cadre de l'IA. Il y a deux idées qui reviennent systématiquement dans ces cercles. D'une part, l'idée du paperclip, du trombone, pour attacher les papiers. C'est l'idée que si on demande à une IA, qui est très efficace, très intelligente, de produire des trombones, eh ben, elle se dit « Ok, je vais produire des trombones » et elle va pousser la mission de production de trombones tellement loin qu'elle va annihiler l'humanité pour s'accaparer toutes les ressources de métal et faire autant d'usines que possible pour créer autant de trombones que possible. Et donc, le fait de demander un trombone va détruire l'humanité. Ça va peut-être vous faire rire, et c'est un petit peu caricatural, mais on est dans ce genre de raisonnement. À la limite, dans ce genre de raisonnement. Je vous rappelle que OpenAI a été fondé pour bénéficier à l'humanité en créant une AGI qui ne soit pas maléfique. On va dire ça comme ça. L'autre exemple, c'est l'exemple de l'AGI qui naît, donc une intelligence artificielle consciente, comme un être humain, et qui, au moment où elle naît, est consciente, a la même capacité qu'un être humain, sauf qu'elle a la vitesse d'exécution d'un ordinateur. Et donc, elle peut très facilement travailler sur elle-même, s'améliorer, beaucoup plus vite que ne pourrait le faire un humain qui doit coder des choses sur l'IA, et même créer d'autres IA compagnons à elle-même, et travailler les unes sur les autres, peut-être une armée, des millions, des milliards, pourquoi pas plus. Et donc, à l'instant où elle naît, au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, eh ben, elle a tellement dépassé le niveau auquel elle a été créée qu'elle est incontrôlable et inarrêtable. C'est un petit peu Cyberdyne, Terminator, enfin, tous ces fantasmes-là. Et donc, ces deux exemples, ces deux schémas de pensée sont une motivation constante, semble-t-il, chez les gens dans ce courant philosophique de l'altruisme effectif dans le domaine de l'IA. Il y en a d'autres, hein. Dans le domaine des cryptos, par exemple, ça a mené à FTX, que j'évoquais tout à l'heure, où les gens comme SBF, Sam Bankman-Fried ont pris des décisions absolument lunaires dans le cadre de leur société, dans leur plateforme de crypto, parce qu'ils disaient « mais moi, je sais et je vais faire du mieux possible, mais je ne vais pas demander aux autres parce que je veux être effectif et moi, prendre les décisions sur ce que je fais. » Et il a fait des choses qui étaient évidemment illégal, risqué, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Dans le cadre de l'IA, eh ben, on a eu un autre exemple, et c'est une des choses que critiquent les articles que j'ai lus ces derniers temps, qui est ces décisions absolument lunaires du board, qui ont, sans consulter personne, sans essayer de déterminer quelle crise ça pourrait provoquer au niveau image, au niveau hiérarchie, au niveau leadership, au niveau financier, donc, qui ont décidé de renvoyer Sam Altman, sans consulter personne. Alors que n'importe qui, on se disait la semaine dernière avec Jeff, mais qui sont ces gugus, pour utiliser un terme plus gentil, qui ont pris cette décision comme ça? Ça n'a aucun sens. Et vous pourriez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec l'altruisme effectif. En fait, si. En fait, c'est une manière de penser et de voir le monde qui mène un petit peu à ça, qui est plein d'illusions, plein d'illusions imposées à soi-même, qui pousse à se dire « bon, bah, moi, je vais gagner beaucoup d'argent moi-même », il y a tout cet aspect à explorer aussi, mais je vais gagner beaucoup d'argent, ce qui est parfois un moyen de justifier le fait qu'on s'accapare les richesses peut-être, mais je vais gagner beaucoup d'argent pour moi savoir où les remettre ». Parce que, d'une certaine manière, le gouvernement, il ne sait pas trop, il y a plein de gens qui ne savent pas, machin… Donc moi, je vais gagner beaucoup d'argent. Le meilleur moyen d'être altruiste, c'est de gagner autant d'argent que possible et de le mettre là où ça va être le plus efficace. Et il y a un petit peu de ça dans la Silicon Valley. Je vais revenir un petit peu plus tard à un autre aspect de cette problématique. On est quand même dans un courant philosophique, si on peut le dire comme ça, qui est égaré, je dirais, je crois.
Ouais, et puis c'est pas marrant, j'allais dire c'est marrant, mais c'est assez antinomique avec la démarche qu'on attend dans le domaine de la tech qui s'apparente à une démarche de recherche scientifique, tu vois. qui est au contraire faire preuve d'humilité sur son savoir, de travailler avec une démarche de revue par les pairs, qui permettent de confronter un peu la connaissance avec, avec d'autres cerveaux, quoi. Et ça donne un petit peu, effectivement, d'après la description que tu en fais et de ce qu'on peut en lire, que ça donne un petit peu un blanc-seing pour certains décisionnaires pour mener des actions assez ubuesques vu de l'extérieur, comme tu l'as décrit, et assez soudaines. Et ça expliquerait bien, effectivement, une telle décision qui serait de renvoyer ton CEO aussi charismatique, aussi efficace et talentueux soit-il, même s'il a des aspects critiquables. Après, est-ce qu'on a véritablement la certitude que c'est l'élément qui a permis d'écarter Sam Altman ? Est-ce qu'on sait tout ? En fait, c'est un peu ça ma question. C'est est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments qui vont ressortir dans la presse et dans les médias qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a peut-être des manipulations, des informations qu'on n'aurait pas identifiées, qui ont pu motiver le fait d'écarter Sam Altman, tu vois ? Je ne sais pas quel est le poids de cette démarche philosophique dans son éviction. En fait, c'est ça, ce stade que je ne sais pas.
C'est possible, effectivement, on n'a pas de certitude à ce niveau. Il y a quand même, comme on peut le dire parfois, un faisceau d'indices et des enquêtes, notamment une qui sera dans la newsletter de Sémaphore, qui quand même laisse penser qu'il y a au moins un petit peu de ça dans ces cercles dans la Silicon Valley, chez OpenAI. On a déjà eu des exemples par ailleurs, chez SBF, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on n'est pas certain. Mais il est peu probable que ça n'ait joué en rien dans cette manière de faire, au minimum. C'est-à-dire que c'est plus que la mission de base de l'altruisme efficace qui est, bon bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, faire le mieux possible avec l'argent qu'on a. Ça va un petit peu au-delà de cette simple mission. C'est vraiment l'idée de, on va nous faire nos recherches et savoir comment on est aussi efficace que possible, sans demander à personne. Et donc, ça s'étend à... On ne va pas demander à des gens qui gèrent les crises, on ne va pas demander à des gens qui connaissent les marchés financiers, on ne va pas demander à des gens... Tu vois, on s'enferme petit à petit, et c'est pour ça que j'appelle ça le piège de l'effective altruism. On s'enferme petit à petit dans des schémas de pensée qui sont peut-être comparables aux fantasmes qu'on a pu voir avec les cryptos, avec les NFT, avec... Tu vois, on s'alimente soi-même ces schémas de pensée. Et au bout d'un moment, ça finit par influencer la manière dont on voit tous les aspects de nos activités ou du monde qui nous entoure. Et j'ai vraiment l'impression, alors là, c'est moi qui interprète peut-être un petit peu, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a, aux extrêmes de ce courant, ce type d'imaginaire qui s'est créé, avec en plus une sorte de solutionnisme technologique débridé, des complexes d'omnipotence de certains secteurs de la tech qui pensent que tout peut être réglé grâce à la tech et par la tech. Donc, tu vois, c'est un peu un ensemble de choses qui viennent converger pour créer cette image. Il y a une vidéo que j'ai regardée quelques jours après avoir lu tous ces articles. C'est une vidéo de Kurskesagd qui est vraiment très bien faite, comme toujours avec Kurskesagd, qui font des vidéos éducatives sur YouTube. Et ils ont fait une vidéo sur les scénarios possibles d'une race extraterrestre qui pourrait, par différents moyens, exterminer la vie sur Terre. Et donc, ils imaginent, c'est une sorte d'exercice de pensée, où ils imaginent comment une race extraterrestre belliqueuse, à plusieurs centaines de millions d'années-lumière, ou plusieurs dizaines d'années-lumière, pourrait essayer d'exterminer la planète Terre et les habitants de la planète Terre. Et donc, ils proposent plusieurs armes potentielles, tu vois, qui pourraient être envoyé, alors qu'il prendrait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années à voyager, soit des lasers, soit des rayons de particules, soit des missiles balistiques relativistes, etc. Enfin, des trucs, c'est même pas de la science-fiction, c'est de l'imagination, quoi. Et effectivement, je peux tout à fait imaginer que tu vois ça et tu dis « Ah, mais on est dans la merde !»« Ah non, mais rends-toi compte, il y a... » Et tu sais, tu peux construire un raisonnement là-dedans. « Il y a... » tant de dizaines de milliards de soleils dans notre galaxie. Il y a tant de planètes autour de chaque soleil. Donc, il y a une chance sur tant qu'il y ait une race assez avancée pour créer ça. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vite, mettons toutes les ressources possibles sur Terre pour nous protéger des missiles balistiques aliens. Tu sais, vraiment, on peut arriver à ce genre de conclusion inéluctable quand on se laisse un tout petit peu entraîner par son fantasme auto-alimenté. Et je crois qu'il y a un petit peu de ça dans ces fantasmes sur l'AGI, qui, quand on demande à des gens qui vraiment étudient ces choses-là, sont complètement balayés d'un revers de la main, qui disent c'est un tissu d'ânerie.
Ouais, je pense que c'est important aussi de souligner ce point-là, qui doit être très fort dans ce que tu décris, c'est que ça se base quand même sur un terrain où il y a probablement un manque de connaissances de la part d'une part du grand public sur le fonctionnement des intelligences artificielles, et même d'ailleurs de toute une partie de la sphère qui est plutôt aguerrie dans le domaine de la tech. On ne sait pas toujours bien comment ça fonctionne. Il y a un côté magique, et puis évidemment, c'est entretenu par des éléments de communication. Parfois aussi par des traitements de la part des médias. Hein. Combien de fois on a eu des articles illustrés par des têtes de robots un peu flippants quand on parlait de ces domaines-là. Et je pense que ce terreau fertile de méconnaissance, de comment ça marche, comment ça fonctionne, entretient aussi cette crainte. Je ne suis pas sûr que ce soit conscient de la part des personnes qui sont dans cette démarche-là, mais ça doit participer en tout cas à l'effet que ça peut générer. Quoi.
Je ne veux pas dire que les gens du board de OpenAI ne comprennent rien au fonctionnement de l'IA, hein, évidemment.
Ah non, bien au contraire. Ah ouais, non, mais je pense même bien au contraire, effectivement. Mais il y a une interprétation philosophique de tout ça qui est effectivement problématique, je pense. Bah ça s'est constaté.
Et parce que leur idée, c'est pas que aujourd'hui l'IA pose ce problème, c'est que à terme, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça pourrait poser problème, et donc il faut maintenant prendre les bonnes précautions. Mais c'est pour ça que j'aime bien cette vidéo de Kurzgesagt. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 200 000 ans, ça pourrait poser problème, les lasers aliens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la science si on a peur des lasers aliens. C'est juste une certaine interprétation.
Il y a Naiden dans le chat qui dit c'est la différence entre l'idéologie et la science. L'idéologie comble les trous quand on ne sait pas. La science, non. J'aime bien ce qu'il dit, effectivement. Je pense que...
Il y a de ça, je crois, effectivement. Ouais. J'aimerais quand même ajouter quelques points sur l'altruisme effectif. Parce que, vous le savez, j'aime pas quand les choses sont trop propres et quand il y a de rares exceptions près, les gens le savent s'ils ont écouté mon AMA de ce week-end, à de rares exceptions près, j'aime pas quand tout est blanc ou tout est noir et il y a souvent un petit peu de nuance là-dedans. L'altruisme effectif a quand même donné des choses comme avec Elon Musk, que Dieu sait que je n'aime pas, Tesla, qui a fait avancer toute l'industrie auto de plusieurs décennies vers les véhicules électriques, qui sont importants pour sauver l'humanité, et qui a été monté dans ce but, en tout cas, selon Elon Musk, dans ce but, avec évidemment des applications commerciales importante pour qu'il puisse gagner de l'argent, mais il y avait quand même une philosophie là, une philosophie d'altruisme effectif. Et SpaceX, dont le but à la base, là encore dans le cadre de l'altruisme effectif, est de créer une civilisation multiplanétaire, littéralement, donc d'envoyer des gens sur Mars. Pour le cas où la Terre explose, au moins on aura une autre planète sur laquelle on peut vivre. Ça peut faire rire, mais je crois que ça aurait beaucoup plus fait rire il y a 15 ans quand il s'est lancé qu'aujourd'hui, où il est en train de tester SpaceShip qui pourrait effectivement envoyer des gens sur Mars dans quelques années. Donc, c'était des choses qui étaient inimaginables et motivées par l'altruisme effectif et le gain également, il a réussi à accomplir des choses. Pour ceux que Elon Musk dérange, ce que je peux comprendre, il me dérange aussi. On pourrait donner l'exemple également, beaucoup plus concret, peut-être, diront certains, beaucoup plus efficace, de Bill Gates, qui a mis sa fortune considérable au service, j'ai pas peur de le dire, du bien de l'humanité, et qui a fait des choses, je vous laisserai vous enseigner, des choses absolument formidables, qui sont pas flashy, qui sont des histoires de vaccins, de soins, de maladies, d'amener de l'eau, et qui sont pas, justement, qui sont très, très altruisme effectif, genre, comment on maximise l'efficacité de la somme qu'on va investir pour que ça ait le plus grand effet et qu'on résolve les problèmes les plus importants sur Terre. Et donc, je ne veux pas dire que ça n'a pas d'application concrète positive. Et il faut le signaler aussi quand j'ai passé une demi-heure à vous parler d'aliens laser et de Cyberdyne et de trombone dans ce sujet.
Pour le dire autrement, tu veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même s'il est enrhumé, en fait. C'est ça.
Écoute, entre les maladies des enfants et les bébés qu'on jette parce qu'ils sont enrhumés, non, je dirais simplement que il y a des approches. Enfin, Je dirais qu'il y a des gens qui s'en servent bien, oui, peut-être qu'on pourrait le dire comme... Genre, en fait, j'aime bien Bill Gates, quoi, et ce qu'il fait me paraît juste. Et même, je suis obligé de reconnaître que Elon Musk, motivé par l'altruisme effectif, et là, pas du gain, réussit certaines choses qui auraient paru irréussissables jusqu'à lui. Est-ce que, pour parler de Patreon, je ne vais pas vous passer cette petite musique qui a été créée par un membre du Discord. Eratz nous a créé ceci. On va y aller tout de suite. Hop, on met ça là.
Patrick Béjaï, il est dans la place. Le meilleur podcasteur, il déchire à fond. Il raconte des histoires, il fait rêver. Les sous-sous qu'il gagne, ça le fait kiffer.
C'est ça qui est important.
Chaque semaine, il nous fait vibrer. Patrick Béja, il aime les sous-sous.
Eh oui, il aime les sous-sous.
Les podcasts, c'est son truc à fond.
Patreon.com.
On l'écoute, on danse, on chante.
La chair des têtes.
Patrick Béja, c'est le king du podcast. Podcast.
Patrick Béja, il aime les sous-sous, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes de votre soutien indéfectible sans lequel cette émission n'existerait pas. Et merci à Eratz pour cette jolie chanson et la découverte de Suno.ai.
Je serais très triste de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon parce que je n'aurais pas droit à cette petite musique. Si
on va la laisser. Fanny, si tu m'entends, on la laisse, cette chanson, pour le Patreon ce coup-ci. Pour mais oui, parce que bien sûr, généralement, les auditeurs n'ont pas la petite partie, les auditeurs qui sont Patreon n'ont pas la petite partie promo Patreon sur le flux privé. Mais là, je crois que
il faut. Ah, ça. C'est...
Patrick Béja, il aime les sous-sous. Il aime les sous-sous pour acheter à manger.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Deuxième partie de ce sujet... de cette émission avec les sujets un petit peu moins importants peut-être. Alors, je pense que c'est quand même un sujet important, la démission ou la mise à l'écart de Changpeng Zhao de Binance. Alors, Binance, c'est l'une des plateformes d'échange crypto les plus importantes au monde. Il y en avait quelques autres, il y en a toujours quelques autres, mais je pense que c'est le plus visible et je pense le plus important. Il a fait un deal avec l'administration américaine pour résoudre un problème, ou plutôt des comportements criminels de Binance. Et dans le cadre de ce deal, il y a non seulement une amende qui est à la fois payée par lui-même et Binance, et le fait qu'il quitte le poste de président de Binance alors qu'il en était le visage, l'architecte, le meneur, et c'est vraiment l'un des leaders de la crypto qui, là encore, doit céder sa place. Les problèmes qu'avait Binance avec la justice, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus, mais en gros, c'est des problèmes de respect de loi de transparence dans le domaine de la banque et de financement. En gros, on a besoin de collecter et de révéler des informations sur les clients qui utilisent vos services bancaires quand on dépasse certaines sommes pour éviter le blanchiment, le financement de terrorisme, etc. Et clairement, Binance n'avait pas fait ce qu'il fallait. On va dire ça comme ça. Donc, il est important de dire également que oui, c'est une grosse affaire. Oui, Chengpeng Zhao, ou CZ comme on l'appelle souvent, quitte Binance, et c'est un moment important pour la société, mais Binance reste en place. Binance continue à opérer, alors peut-être avec un petit peu moins de liberté, mais continue à opérer tout de même, ça ne veut pas dire la mort de la plateforme. C'est un problème récurrent hein, dans les cryptos, ces histoires-là, je crois.
Bah, pour le moins, et puis je pense que là, ça met vraiment en lumière le sujet, parce que comme tu le dis, c'est la plus grosse plateforme crypto. Et ça met au goût du jour une réalité qui est celle des services bancaires aujourd'hui, un peu partout dans les pays tels que les nôtres, dans lesquels il y a des responsabilités. Les personnes qui bossent dans des banques ont des responsabilités en matière de conformité, pour effectivement remonter, il y a des process qui sont bien établis, hein, et tous les collaborateurs sont en général formés sur ce genre de choses, remonter des comportements atypiques, problématiques, qui pourraient être préjudiciables parce qu'ils pourraient laisser imaginer qu'il y a de la financement, évidemment, des financements d'activités illicites, voire d'activités terroristes. Et forcément, il y avait un flou pour le moins artistique concernant les sociétés de crypto, parce que c'est dans l'ADN de la crypto, quoi. Je veux dire, c'est du même ordre que le chiffrement des conversations dans les messageries privées ne permet pas d'aller inspecter les contenus pour voir s'ils sont adaptés ou pas à des fonctionnements dans un cadre politique et législatif. C'est la même chose pour les cryptos, c'est sa nature même dans la crypto de ne pas permettre autant de visibilité. Mais tu ne peux pas prétendre avoir une entreprise de la taille de Binance et fournir des services qui puissent concurrencer les services bancaires sans tenir un certain nombre d'engagements légaux. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, je pense que c'est une logique implacable qu'il se fasse punir pour ça. Et ça pose quand même globalement la question de ce qui va se passer pour cette entreprise, parce que tu as raison, elle est encore là, la société, mais elle va devoir se mettre en conformité, vraisemblablement appliquer des process que les banques appliquent. Et je me demande quand même si, après cette condamnation, est-ce qu'on ne va pas passer quand même de Binance, qui serait une start-up dans le vent et qui a bien installé ses fonctionnements, à une mauvaise banque, quoi. Parce que vraiment, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient tirer parti de leurs avantages d'avant tout en se conformant aux obligations légales. Donc,
c'est la grande suite, question, je crois. C'est la grande question. Ouais. Alors, il faut signaler quand même qu'il ne semble pas que les financements d'activités illégales soient l'essentiel de l'activité des cryptos. Ça ne serait pas juste de le dire ça.
Bien sûr, ça c'est vrai.
Mais bon, il y a quand même de la spéculation. On a l'impression qu'il n'y a pas énormément d'activités commerciales légitimes ou financières, pas légitimes, mais au-delà de spéculation et d'activité qui ne peut pas passer par les banques traditionnelles, la question c'est qu'est-ce qui reste ? Et comme la spéculation s'est cassée la gueule et que les activités illégales sont en train d'être régulées, ça pose la question, est-ce que toutes ces plateformes... Alors il y a FTX qui s'est cassé la gueule il y a quelques mois, il y a Binance qui va devoir mettre les choses au clair, il y a d'autres plateformes qui sont sous le coup de régulation, qui sont en train d'être votées un petit peu partout dans le monde. Bon, la question est ouverte. Le Bitcoin reste à une valeur relativement solide. Il y a d'autres crypto-monnaies, il y a des technologies blockchain qui peuvent être utilisées ici et là. Bon, clairement, on n'est pas dans l'euphorie d'il y a 2 ou 3 ou 4 ans. On continue à suivre ça. Je veux mentionner aussi une chose importante, c'est le rachat de VMware par Broadcom. Alors là aussi, on n'est pas dans quelque chose de terriblement sexy comme info, mais c'est quand même un des plus gros rachats de l'histoire de la tech, avec 61 milliards de dollars. Broadcom est un fabricant de semi-conducteurs qui équipe énormément de serveurs et d'autres types d'équipements, mais essentiellement des serveurs, qui a racheté VMware, qui est un spécialiste de la virtualisation. Donc le fait de faire tourner des OS sur différentes machines en logiciel uniquement, donc plein de machines dans d'autres machines en gros, mais en logiciel uniquement. 61 milliards, alors VMware c'est une grosse boîte, hein, clairement. Broadcom c'est une grosse boîte. Il n'y a pas eu de problème de concurrence. En tout cas, les marchés, les autorités ont jugé que ça pouvait passer. C'est un énorme rachat qui est beaucoup moins sexy que d'autres dont on parle pendant des mois ici. Mais il faut quand même le mentionner une fois qu'il est fait au minimum. C'est ce que je fais aujourd'hui.
son montant fait que c'est le top, c'est le troisième hein, plus gros rachat de l'histoire de la tech, si je dis pas de bêtises. J'aime bien, moi, raisonner comme ça en podium, tu vois, c'est mon côté compétitif. Je crois que c'est le top 3, enfin, je sais plus, top 3 ou top 4, je sais plus.
Oui, c'est ça, c'est dans ces ordres d'idées. On se souvient évidemment de Activision Blizzard par Microsoft il y a quelques semaines, et il y en a un ou deux autres, mais oui, Broadcom, enfin 61 milliards. Activision Blizzard, c'est 67 ou 69. Là, 61, oui, on n'est pas loin derrière. Enfin, 61 milliards. C'est marrant parce que c'est des boîtes, énorme. Je pense, dont la plupart des auditeurs n'ont soit jamais entendu parler, soit connaissent vaguement le nom sans être sûr de ce qu'ils font, tu vois.
Ouais, dans l'IT, VMware, ça parle beaucoup, je pense. Bien sûr. Mais effectivement, pour le grand public, probablement pas.
Donc, si vous, je pense que la plupart des gens connaissent VMware parce qu'ils l'utilisent pour faire tourner Windows sous Mac, tu vois, c'est un truc du genre. C'est ce genre de choses qu'on permet que permettent les outils de VMware.
Allez, c'est pas les outils les plus grands publics de virtualisation pour faire tourner du Windows sur Mac, quoi, mais bon.
Ah, écoute, je pense qu'ils n'ont pas plus grand public VMware, plus consumer, tu vois. Après, c'est des trucs de boîte qui font tourner, je sais pas moi, plusieurs instances de Linux en même temps sur la même machine pour faire des trucs en IA. Et
ah oui, oui, bien sûr, dans leur activité à eux. Ah oui, oui, tout à fait, tu as raison. Ouais.
Quoi d'autre ? J'aimerais bien vous parler d'une petite histoire qui m'a fait rire.
C'est croustillant.
De quelqu'un qui est parti de chez... Attends, que je ne dise pas de bêtises.
Valeo.
De Valeo, merci. Valeo, donc, entreprise française hein, bien connue, qui est parti de chez Valeo et qui est allé chez Nvidia. Il est parti de chez Valeo et il est allé chez Nvidia pour commencer à développer des technologies qui correspondent à ce que faisait Valeo. Bien sûr, on se demande toujours, alors, oui, bon, c'est ses connaissances, machin... On ne sait pas, sauf que il se trouve qu'il a volé du code source de chez Valeo quand il est parti chez Nvidia. J'imagine que Valeo se disait « c'est peut-être pas top qu'il aille chez Nvidia pour faire des choses équivalentes à ce qu'on faisait, de l'automobile autonome, hein, bien sûr, de la voiture autonome. Mais bon, on n'a pas de preuve que quoi que ce soit, on n'a pas de raison de le soupçonner que ça se passe mal. » Sauf qu'ensuite... Valeo et Nvidia travaillent ensemble sur un projet proche de ce sur quoi ils travaillaient. Donc, le monsieur en question est dans un call entre Nvidia et Valeo. Et comme souvent dans un call, eh ben on partage son écran. Et à un moment, il réduit la fenêtre Skype ou ce que c'est Zoom dans lequel ils sont en train de discuter. Et on voit afficher sur son desktop le code source qu'il a volé à Valeo. Les employés de Valeo, évidemment, pas débiles, ils voient ça, ils font immédiatement des captures d'écran et Valeo lance un procès contre Nvidia qui dit « Oh, mais on n'était pas au courant, mais enfin, ça ne nous a jamais servi, ça nous a... » Mais franchement, je crois que la leçon de ça... C'est quoi la leçon que tu tires de cette...
Alors, la leçon que je tire... Alors, je ne sais pas si j'en tire une leçon, en fait, si ce n'est que il faut faire attention quand même à ce que tu partages dans des réunions ce type-là.
Mais c'est
et
ça
après, revoir ton
faut écran, partager une ranger fenêtre, pas ton écran.
Et alors, ce qui me semble, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais il semblerait que carrément le nom du dossier dans lequel il y avait code source affichait bien de Valeo. Quoi.
Mais enfin, oui, c'est ça.
Il y a un côté un peu François Pignon dans cette histoire qui est remarquable. C'est particulièrement croustillant.
Tout à fait. C'est très, très drôle. Enfin, chez Valeo, ils doivent moins rigoler. Et je pense que chez Nvidia aussi, quoi, parce que être. Et même lui-même, il ne doit pas être très content. Donc,
ça semble difficilement contestable, hein, quand même. J'imagine que des avocats ont des ressources incroyables. Mais là.
Oui. Bon. À un moment. Du coup, et c'était sur Teams, hein, c'était sur Teams leur meeting. Mais du coup, oui, la leçon. Alors. C'est ne pas partager son écran entier, partager juste une application, ou alors peut-être ne pas voler des documents confidentiels de votre ancien employeur. Potentiellement, c'est peut-être aussi ça la leçon.
Bel enseignement.
Et quand il y a des gens qui aiment bien rire de ce pauvre, des mésaventures de ce pauvre Elon Musk, est-ce que tu as vu ce qui se passe pour Tesla en Suède ?
Oh là là, mais il va bien falloir qu'il arrive à régler tous ces problèmes-là, le pauvre Elon Musk. Oui, avec un vent de protestation de la part de ses employés.
Alors, c'est même plus que de protestation de la part de ses employés. Il y a quelques employés, enfin, une centaine, 150 employés de l'usine Tesla, enfin, de mécaniciens Tesla en Suède qui se sont mis en grève. Et Tesla s'est dit, bon, bah écoutez, ils sont en grève. Pourquoi ils sont en grève ? Parce qu'ils veulent être syndiqués, comme la plupart des employés de la société suédoise. Ils veulent être syndiqué, c'est pas 100% des employés dans le domaine qui sont syndiqués, mais genre 90, et eux, ils se sont dit, bon, bah, on se met en grève, on veut se syndiquer, on veut être syndiqué, on veut que Tesla respecte nos volontés de travailleurs. Tesla s'est dit, bon, bah, ils se mettent en grève, ok, on va faire venir des travailleurs d'ailleurs, et on va attendre qu'ils se calment, parce qu'on ne va pas se laisser emmerder. Sauf que l'intégralité de la société suédoise s'est levée contre Tesla et a commencé à boycotter tout ce qui a attrait à Tesla. Alors, ce n'est pas seulement des gens qui ne vont plus acheter des Tesla, mais c'est genre les travailleurs des ports qui ne déchargent plus les conteneurs qui ont des Tesla ou du matériel Tesla, c'est les administrations postales qui ne traitent plus les courriers qui ont à voir avec l'immatriculation de véhicules Tesla, c'est tout un tas de trucs comme ça, et genre la société Tesla, le produit Tesla ne peut plus fonctionner aujourd'hui en Suède, parce que des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit en soutien aux travailleurs, se sont mis à ne plus... Enfin, c'est des trucs du genre, comme le dit l'article de Numérama, les électriciens refusent de réparer les bornes de recharge Tesla, quoi. Le ménage des showrooms n'est plus fait par les entreprises, Tesla, par les entreprises pour les showrooms Tesla. Les ordures ne sont plus ramassées devant les centres Tesla. Enfin, c'est assez...
Même les machines à café ne sont plus alimentées, hein, il semblerait.
C'est un boycott complet, hein, vraiment.
Je pense que, alors, c'est amusant, c'est enthousiasmant peut-être, je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup rire les gens qui ont Elon Musk dans le nez, et évidemment, lui, ça lui a fait sortir les yeux de la tête, mais voilà, c'est rigolo. Et puisqu'on parle d'Elon Musk, la suite du procès en diffamation de qu'avait déclaré vouloir lancer Elon Musk contre Mediamatters. Vous vous souvenez que Mediamatters avait montré qu'il y avait des publicités de gros annonceurs qui étaient affichés à côté de propos nazis, littéralement. Et il a effectivement mis sa menace à exécution. Il a lancé un procès qui, selon toutes les analyses, n'a aucune chance d'aboutir puisqu'il est sans mérite. Le procès qui dit que Mediamatters a manipulé le flux et qu'en réalité, on ne voit pas vraiment de publicité à côté des contenus néo-nazis, c'est-à-dire qu'il ne dispute pas le fait qu'il y ait des contenus néo-nazis sur sa plateforme. Il dit « Oui, mais enfin, en fait, on n'en voit pas de pub à côté de ça, donc ce n'est pas un problème. » Bon, OK. Il y a eu d'autres organisations qui ont fait des tests similaires qui en sont arrivés aux mêmes conclusions. Mais surtout, une chose qui est importante, c'est que il semble que de plus en plus de sociétés ont commencé à ne plus alimenter leur flux Twitter en dehors de la publicité. Des sociétés comme Disney ou Paramount, ce genre de sociétés, qui juste ne tweetent plus, en fait. Et du coup, ça montre, selon moi, que le problème n'est pas tant les contenus à côté de contenus néo-nazis, encore que, mais plutôt la plateforme dans son ensemble, qui est un petit peu en train de devenir toxique, enfin qui est devenue assez toxique pour l'image des marques, et que ces marques attendaient la bonne excuse, qu'elles en avaient marre et qu'elles attendaient, certaines d'entre elles, hein, la bonne excuse pour pouvoir se barrer, quoi. Et là, c'était juste la chose qui fait que, bah, ils ont maintenant, ils peuvent justifier sans forcément, en allant tous ensemble, ce qui fait que Musk ne peut pas répliquer en disant « telle marque, il faut la boycotter », ou ce qui fait peur, hein, « telle marque, il faut la boycotter », elle s'éloigne petit à petit de Twitter. C'est le scénario qui me paraît le plus crédible. Mais...
Ouais, c'est-à-dire que quand tu es une marque aujourd'hui, le fait de communiquer sur X et de continuer à animer ton compte, sans même parler d'ailleurs de médiatisation, même si évidemment ça va directement dans la lignée, devient problématique. C'est-à-dire que les retours pour une entreprise ne sont pas si importants que ça. Je veux dire, je ne suis pas certain que ce soit la plateforme de type réseau social qui apporte le plus de valeur à des entreprises, qui génère les leads, comme on dit dans le milieu du marketing, de manière la plus qualifiée qui soit. Et en même temps, le fait de continuer à y mettre de l'énergie commence à être associé effectivement à une plateforme particulièrement toxique. Et je pense que c'est un nouveau point d'alerte énorme qu'on peut avoir quand on regarde l'orientation de X ex-Twitter, ça c'est clair.
ce qui est préoccupant pour X en tant que société, c'est que on sait que les abonnements ne rapportent pas énormément d'argent, que la publicité était en baisse, que maintenant elle est clairement, elle va chuter de manière spectaculaire. La plateforme est en train de se transformer. C'est un petit peu ce qu'on pouvait imaginer, hein, ce qu'on pouvait prévoir. Elle est un petit peu en train de se transformer en Parler, en Truth Social, ouais, en toutes ces sociétés qui ont voulu monter des réseaux sociaux en se basant sur une sorte de, comment dire, d'illusion de liberté de parole qui servait à justifier le fait de ne pas modérer les propos les plus scandaleux, qui du coup ont fait fuir les marques ou n'ont pas réussi à attirer les marques et donc n'ont pas réussi à générer des revenus suffisants pour continuer à exister vraiment. On sait que à la fois Parler et Truth Social sont en grande difficulté. Et Musk, en partie par ses politiques de liberté de parole et en partie, en grande partie, je pense, par lui, comme on le disait la semaine dernière, lui, ce qu'il véhicule comme idée, comme soutien sur la plateforme, qui sont des idées d'extrême droite, MAGA, alt-right, nazi parfois, eh ben, forcément, il transforme sa plateforme X en Parler, finalement. Et le schéma est déjà tout écrit. Il n'y a plus d'annonceurs, donc elle ne fait plus d'argent, donc elle est difficile à maintenir. Je veux dire, Musk, s'il voulait Parler, il aurait pu l'acheter pour beaucoup moins que 43 milliards. C'est ce que je disais sur Twitter, justement, et sur les réseaux, il y a quelques heures. Il est vraiment en train de transformer X en Twitter. Il peut continuer à le financer. Il a beaucoup d'argent. Il pourrait mettre un milliard, 2 milliards par an sur Twitter pour maintenir en vie son fan club, hein, s'il veut. C'est possible. Mais la boîte va très bientôt ne plus rapporter suffisamment pour même rembourser les intérêts sur les prêts qu'il a contractés pour la racheter. Donc, on est dans un scénario vraiment problématique pour Twitter, là.
Ouais, ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'on illustrait justement bien avec l'actualité de la sortie de Sam Altman la semaine dernière, et du coup son retour, hein, que c'était une plateforme assez idéal pour suivre ce genre d'infos de par sa nature et de par la communauté qu'il y a dessus. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est curieux qu'il n'y ait pas un concurrent, je regarde du coin de l'œil Threads, de la part d'Instagram, qui ne fasse pas des mouvements plus forts pour rapatrier un petit peu cette communauté. Ils disent ne pas vouloir y véhiculer de la politique, par exemple. Et pourtant, je sais que tu as mis dans les notes de l'épisode le fait que la Maison Blanche travaille quand même sur Threads, là, a priori.
Tout à fait, oui.
Donc, intéressant de voir le mouvement qu'il va y avoir pour succéder aux usages dont on a visiblement tous besoin sur Twitter.
Ouais, c'est compliqué, hein, parce que ça se construit. Twitter s'est construit en quoi, 5, 10, 15 ans, tu vois, ils ne sont pas arrivés. Et transposer, ce n'est pas facile. Donc, il faut que ça soit Threads, quand ils arriveront en Europe peut-être, ou Blue Sky. Entre parenthèses, les codes commencent à être à rester longtemps sur le Discord. Donc, si vous en voulez, c'est le moment. On a des gens qui mettent des codes à disposition sur le Discord. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont les revendre ensuite. Je ne crois pas, parce que maintenant, tous ceux qui en voulaient, en tout cas dans la communauté française, en ont, je crois. Mais donc, il y a ça, il y a Mastodon, évidemment. Mais ça ne se transpose pas. Comme tu le rappelais, c'est sur Twitter qu'on a suivi les histoires de OpenAI. Donc,
Je me rappelle de ton article sur ton blog perso, je pense, hein, ou pas, je ne sais plus, mais tu avais écrit un article, La beauté de Twitter à l'époque.
Oula,
quand ça arrivait.
Il y a longtemps,
je pense qu'il faudrait
il y a bien longtemps, sur patrickbeja.com. Patrickbeja.com, La beauté de Twitter. Ça doit dater. Ah non, bon, je ne le vois pas. C'était peut-être pas sur. C'était peut-être pas. Twitter is still my favorite social network en 2013. Et pourquoi? The Beauty of Twitter, tu as raison, c'était en 2009. Peut-être que je mettrai le lien dans les notes de l'émission sur ce magnifique article de 2009. Allez hop, on va le noter en plus. Entre parenthèses, Twitter a également... Enfin, Twitter... Elon Musk a également annoncé que, contrairement à ce qu'il avait fait, enfin le changement qu'il a opéré pour cacher les titres des articles qui sont partagés sur Twitter, va être, renversé, annulé, et il va du coup, on va revoir les titres des articles. Alors ça sera peut-être surimposé sur l'image ou un truc du genre, mais ça revient. C'est une idée de génie, franchement. Je trouve ça magnifique. Où a-t-il pu avoir une telle idée ?
Brillant.
Donc, voilà pour Twitter. Qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste ? Il reste quelques sujets. Alors, Google a mis à jour Bard pour qu'il puisse étudier les vidéos YouTube, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle de Google pourra voir dans les transcripts de vidéos YouTube, donc on pourra lui poser des questions sur ça. C'est plutôt intéressant. Il y a aussi un procès que faisaient certains grands pontes de Hollywood, dont Sarah Silverman, aux différentes moteurs d'IA, dont Meta, avec Llama. Et Sarah Silverman disait que ça enfreignait les lois sur le copyright, les moteurs d'IA. C'est une plainte qu'on entend évidemment très régulièrement ces derniers mois. Là où c'est intéressant, c'est que un juge aux US a dismissed, comme on dit en français, a estimé que le procès...
Rejeté,
tout à fait, a rejeté le procès de Sarah Silverman et ses amis au motif qu'il n'y avait pas d'exemple prouvé que la création des IA, de ces moteurs, était du plagiat des livres des gens qui se plaignaient dans le procès, des plaintifs du procès. Et c'est vraiment intéressant parce que légalement, ce qu'il a estimé, alors c'est un district judge, après ça peut se reprendre une nouvelle forme, aller dans d'autres cours, etc., ou d'autres cours de justice, mais ce qu'il a dit, c'est oui, ok, ça a peut-être été entraîné sur vos œuvres, mais quand on lui demande d'écrire un truc, bah, il ne fait pas un plagiat de ce que vous avez écrit, donc il n'y a pas de copyright, il n'y a pas d'infraction au copyright, puisque on ne retrouve pas vos écrits. Donc, au revoir, merci. J'ai trouvé que c'était un élément intéressant.
Il y avait eu exactement la même décision avec des plaintes analogues pour Stable Diffusion. Donc, c'est intéressant de voir qu'en plus, c'est cohérent dans les retours de la part de la justice.
Tout à fait, oui. Bah, ils doivent peut-être lire les articles de loi, possiblement.
Absolument.
On me dit les plaignants, pas les plaintifs. Tu vois,
oui,
les
plaignants.
Les maladies des enfants, les cris plaintifs des enfants me restent dans le cerveau. Et puis, dernière petite news, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'une étude financée par TikTok a montré à quel point les gens qui utilisent beaucoup TikTok écoutent plus de musique, ont plus de services de streaming de musique, ils achètent plus de musique, enfin bref. Les gens qui utilisent TikTok adorent la musique. Évidemment, c'est une étude qui est financée par TikTok aux États-Unis et en Angleterre. Mais c'est marrant de voir que, bah oui, quand tu fais écouter de la musique aux gens et que tu occupes leur cerveau avec ça, bah ils vont plus s'intéresser à la musique. C'est pas faux. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. C'est genre plus 62%, deux fois plus que ceux qui n'utilisent pas TikTok. 49% de plus pour ceux qui utilisent la plateforme, qui dépensent dans la musique, etc., etc. Pas très surprenant. Et enfin, j'aimerais vous donner quelques pistes sur des articles qui seront partagés dans la liste de lecture de la newsletter. Un article intéressant sur le trauma vicariant. Trauma vicariant, c'est le traumatisme qu'on vit quand on voit beaucoup d'images violentes sur les réseaux sociaux ou sur les infos, les chaînes d'infos en continu, ce genre de choses. C'est réel et c'est expliqué dans cet article. Il y a un article sur les dépenses des streamers Netflix, Disney+, etc. en Europe par rapport au reste du contenu, du financement des contenus séries, dans l'Union européenne, enfin en Europe, c'est assez intéressant aussi. Des études sur les efforts de décarbonisation des fondeurs et des fabricants de matériel et essentiellement de puces. C'est intéressant parce que ça va pas très bien pour certains et puis il y en a qui progressent dans le bon sens. Je vous spoile pas, mais il y a tout un détail sur l'article de Greenpeace. Et enfin, une étude sur le financement des startups en Europe et la manière dont ça bouge depuis 2020 et un petit peu au-delà et jusqu'en 2022. ça va moins bien qu'en 2021, mais peut-être pas moins bien qu'en 2020. Donc, il y a une chute dramatique, mais après une augmentation dramatique. Donc, les détails sont dans cet article-là, tout ça est dans la newsletter, évidemment. Et c'est hyper intéressant, je vous mettrai aussi l'article « The Beauty of Twitter », ça va être rigolo. Guillaume, merci d'avoir été avec moi dans cet épisode. C'était un moment fabuleux partagé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Merci beaucoup à toi, Patrick, de me laisser l'opportunité d'échanger avec toi sur la tech pour cet épisode. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, alors soit le nom de domaine qui vous redirige plus ou moins vers ma présence en ligne, et puis même sur Blue Sky. Hein, bah, j'en profite, tu citais tout à l'heure Blue Sky. J'ai réussi à mettre mon nom de domaine et vous me retrouvez aussi simplement guillaumevendée.fr. sur Blue Sky. Et puis, si jamais vous n'en avez pas assez d'entendre ma voix et entendre parler de tech, si jamais vous avez encore un petit peu de place dans vos temps morts dans la semaine, vous voulez plus de podcasts tech, vous pouvez écouter Tech Café. Vous m'y retrouverez avec mon compère Guillaume Poggiaspala.
Magnifique, merci beaucoup. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, vous le savez. Il y a le Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont abonnés. Vous avez également le Discord où on passe de bons moments tous ensemble. On s'amuse bien et on discute de plein de sujets. C'est le meilleur endroit d'Internet, comme j'aime à le rappeler. Si vous n'aimez pas trop les néo-nazis, sur Twitter, vous pouvez venir sur le Discord. On s'amuse bien entre nous, entre gens plutôt gentils. On a des discussions un petit peu animées parfois, mais on est quand même dans une bonne ambiance. Il y a également les lives sur Twitch et YouTube. Désormais, vous étiez encore plus, ça continue à augmenter le nombre de viewers sur YouTube. Note Patrick Podcasts sur YouTube, qui est la chaîne où je mets les replays des podcasts. Et il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver à un moment sur cette chaîne également. C'est Note Patrick Podcasts. Et donc, vous pouvez voir en live là et bien sûr sur Twitch. Enfin, bref, il y a de tout. Un petit peu partout, vous me retrouvez avec Note Patrick, absolument partout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une excellente semaine. Enfin, on se retrouve jeudi pour le rendez-vous, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans une petite semaine. On va voir si on fait un petit after show pour les Patriotes. Donc vous, on se retrouve dans deux secondes, mais le reste, dans une semaine. Ciao à tous, ciao à toutes.
Débarque avec du flow, c'est Patrick le King du RDV Tech. Tu sais, t'as peut-être pas podcast, mais je suis lourd, j'arrive pour tout geek. Je t'envoyer dans le noir, Tech Café, t'es qu'un petit joueur. Guillaume, écoute bien ce que je vais dire. T'as pas le niveau pour me faire souffrir. C'est la bataille de rap, je vais t'anéantir. RDV Tech, c'est moi qui vais finir par rire.
Oh ouais, c'est ça.
Oh ouais, c'est ça. Guillaume.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.